Bon, alors j'ai sauté le va, le ré. On est à 4-6, donc à la page 72. Ceux qui ont le verdier, 72. Bonsoir.
Bonsoir.
Hein?
C'est de nouveau un de ces sujets difficiles. Vayas Elohim et Arakia. Ça c'est donc verset suivant. Elohim a fait le Rakia. Il a fait cette espèce de, on sait pas, espace étendu qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et le Midrash annonce tout de suite la couleur. Et il disait, Echad min amikraot, she'irish benzoma et haolam. Ceci est un des versets avec lesquels Benzoma a bouleversé, il a bouleversé Ourache, bon, il a fait trembler, effectivement, bouleversé le monde. Pourquoi il l'a bouleversé? Parce que c'est insupportable. C'est écrit Vayas, et ma, la création, elle se fait, merci, par des paroles. C'est Asara Mahamarot. Adosh Boko a créé le monde avec 10 paroles. Et ce verset, il parle d'une Asiya. L'Asiya, c'est pas le même domaine que le domaine, a priori, des paroles. On a l'impression que le domaine des paroles, c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus éthéré que le domaine de la Asiya, que le domaine de l'action. C'est ça que Benzoma a soulevé comme problème. C'est marqué dans le pasouk de Tehilim que Bidvar Hashem, par la parole d'Hachem, Shamaim Naasu, ou Be Ruach Piv, par le souffle de sa bouche, c'est aussi sa parole, si vous préférez, peut-être même encore plus haut que la parole, le souffle, si vous voulez, on peut dire, on peut voir que la parole, c'est du souffle qu'on a transformé, c'est-à-dire c'est un souffle qu'on a en quelque sorte on a cassé le souffle, ça donne une idée de continu, et ici on a cassé le souffle et ensuite on a décalé, et donc ça a fait des sons différents, vous voyez, donc ça donne la parole, en tout cas c'est au moins au niveau de la parole. Donc le ciel, mais il a été fait, mais Bidvar Hashem. Et Kol Tzva'am, et tout le contenu du ciel, lui aussi, il est donc créé par Ruach Piv. Ça, c'est la question de Benzoma. Et puis, dans la foulée, on a l'impression. On pose une question, on verra, est-ce qu'elle est vraiment liée? Lama, Enktiv, Vacheni, pourquoi le deuxième jour de la création? Ne trouve-t-on pas qu'Hachem a regardé la création, observé ce qu'il avait ce qu'il avait créé, et pourquoi il n'a pas dit Ki Tov, comme il va le dire sur les autres jours. Alors le Midrash dit que Rabbi Yochanan l'a dit au nom de Rabbi Yossi Rav Chalavta. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Ki Tov? C'est beau parce que en ce second jour de la création, Nivret Geinom, le Geinom a été créé. Où est-ce qu'on le voit? Parce que c'est marqué dans le Passouk, qui Aruch me etmol tof te. Alors, on va voir ce que tofté, ce que ce mot-là, il n'est pas du tout c'est pas du tout un mot courant. D'accord, ça veut dire ce mot-là, c'est un mot qui désigne le Geinom. Et on dit Yom Sheyeshbo Etmol Ve'enbo Shilshom. C'est un jour qui a un hier, mais il n'a pas d'avant-hier. Afranina Amar, je reviendrai. Shebo, pourquoi est-ce que lui il a une autre théorie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Kitov le deuxième jour? Lui dit Shebo Nivret, parce que ce qui a été créé à ce moment-là, c'est la Machloket. L'idée même d'une Machloket. L'idée d'une division, d'une séparation, en fait. Shenemar vihi mavdil ben maim le maim. On a dit, ce deuxième jour, le rakia a été créé, et ce rakia, il fait la séparation entre maim et maim. Ben maim le maim. A priori, le lamed ici, il vient de la construction du ben. Ben que ça, ben ça et ça. Le lamed, a priori, il va avec le ben, il vient à cause du ben. On va voir que il va être lu différemment plus bas. Amar Rav Tivyume, im machloket shei le tikuno shel olam, veli yishuvo en va kitov, si la machloket, vous voyez, ici le Midrash, il prend la Havdalah comme un équivalent de la machloket, ou la machloket comme un équivalent de la Havdalah. Alors si donc, cette machloket-là, c'est-à-dire ce partage entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui est Tikuno shel olam et Yishuvo shel olam. On verra tout ça en détail. Si, à cause de cela, il n'est pas écrit Kitov, alors Machloket Shei, l'Irbuvo shel Acha, l'Irbuvo, qui sert au contraire à mélanger, à troubler le monde, à plus forte raison qu'effectivement, ça peut pas être qualifié de tov. Amar Rav Shmuel, pourquoi lui dit autrement? Pourquoi est-ce que c'est pas marqué qui tov? Le fils, Shelon Nigmera Melacha, Melechet Amaim, parce que le travail sur l'eau, si vous voulez, la fabrication de l'eau, n'est pas terminé. Le fichar, et c'est pas, on voit bien que c'est parce que c'est pas terminé qu'il n'y a pas eu le kitov, c'est pas, puisque le troisième jour où le travail de l'eau est terminé, Alors, Katouf Bashlishi, Kitov, Shne Peamim. C'est marqué deux fois Kitov pour le troisième jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kitov qui parle de Mlechet Hamayim et on ne peut pas dire Tov tant que ce n'est pas terminé. Donc on a remis, puisque le travail de l'eau ne s'est pas fait en un seul jour, mais s'est fait sur deux jours. Alors le Kitov de l'eau, il est dit à la fin du travail sur l'eau, c'est-à-dire le troisième jour. Et la deuxième occurrence de Kitov, c'est l'Emlarto Shelyom. Ça va pour, comme tous les autres jours, Akadosh Baruch Hu contemple l'œuvre de chacun de ces jours, et il dit Kitov. Sha'ala matrona achat et Rabbi Yossi. Il y a une de ces matrones romaines qui a interrogé Rabbi Yossi. Amralo lui a dit, lama enktiv beshene kitov. Vous voyez, les matrones, elles avaient des sujets de réflexion en époque. Quoi, le savoir, pourquoi c'est pas marqué kitov? D'accord, est-ce que la first lady ou la première dame, etc., est-ce qu'elle téléphone au grand rabbin de France pour lui demander pourquoi c'est pas marqué Kitov le deuxième jour? Je sais pas, peut-être elle lui a demandé. Hein. En tout cas, la matrone en question, elle a interrogé Rabbi aussi à ce sujet. Amarla. Alors non seulement elle a interrogé, mais il lui a répondu. Donc on peut pas ne pas. On avait vu déjà précédemment. On peut pas ne pas répondre à une matrone. On est en galoute. Et c'est les dames puissantes comme on dit aujourd'hui. Il vaut mieux pas se les mettre à dos parce que ça peut avoir des conséquences très négatives pour le clan Israël. Donc quand ces dames posent des questions, on répond. Amarla, il lui a dit, Afar Piken, Chazar, ou Klalo Kulo, Besof, Shenemar, Vayar Elokim, et Kola Sherasa, Vine, Tov Meod. Il n'a pas donné la réponse qu'on a donnée avant. D'accord? Qu'est-ce qu'il a cité? Il cite le Tov Meod, qui est tout à la fin de Maaseh Bereshit. Quand Hachem a tout regardé, tout, il a dit Kitov. Donc ce Kitov là, enfin Tov Meod, pardon, ce Tov Meod, il englobe tout ce qui a été fait dans les six jours. Donc il lui a répondu, il lui a pas dit le lendemain il y avait deux fois Kitov. Il lui a répondu à la fin, Hachem va dire non seulement Tov, mais Tov Meod sur tout ce qui a été fait. Amrale, alors elle lui a dit, Machal. Madame, elle a proposé un Machal. Un peu une espèce de critique ou explication de ce qu'elle a compris de ce qu'il lui avait dit. Shishab ne Adam, Baim et Slecha. Disons que six personnes viennent chez toi. Ve'at noten le cholechad ve'chad mané. Et tu donnes 100 à chacun d'entre eux. Ou le'chad et natan noten. Chacun d'entre eux sauf un. Il y en a un auquel tu ne donnes pas 100. Tu lui donnes pas la manée en question. Vertroser, et maintenant tu redonnes, venoten le kulam manée echad. Et tu redonnes maintenant à chacun une manée. Est-ce que, quand on fait le total, לא נמצא ביד כל אחד מנה, הוא שטות. La deuxième chose, tu notes le kulam mané echad. C'est-à-dire que tu leur as donné un mané à partager entre tous. Donc chacun a un sixième de mané. D'accord? Bon. Vaut mieux laisser ça comme ça parce que le sixième de cent, c'est un peu long à raconter. Donc, chacun va avoir 100 plus un sixième de 100. Ça, c'est les tout sauf celui qui n'a pas reçu le sang. Lui, il aura seulement un sixième de sang. L'onimsa beyad kolechad mané ushtut. Est-ce que chacun n'a pas un mané, une fois cent et un sixième? Ou beyad echad, mais il y en a un, celui auquel tu n'as pas donné le sang, lui il a seulement shtut. Évidemment qu'il n'aura que un sixième. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit que sa réponse n'était pas bonne. D'accord? Toi, tu m'as dit, il lui a répondu que le tov meod de la fin, il s'applique à tout le monde. Bon, ben, elle lui a dit, ils auront tous une partie du tov meod, mais il n'en reste pas moins que chacun d'entre eux, sauf le deuxième jour, aura un plus, un kitov. Ils ont tous kitov plus un sixième du tov meod, sauf le deuxième jour, qui lui n'aura que un sixième de tov meod. Ok? C'est l'argument de madame la matrone. C'est-à-dire, on pouvait pas comme ça les renvoyer avec rien du tout. La question qu'on peut se poser, évidemment, c'est pourquoi elle passe par un machal pour dire quelque chose de, finalement, ce qu'elle dit, ça tient parfaitement debout, mais on n'avait pas besoin d'un machal pour ça. On aurait pu le dire directement. On aurait très bien pu dire, finalement, ils ont tous un kitov plus un sixième de tov meod, sans passer par l'histoire que tu donnes 100 et puis un sixième et un 100 à tout le monde, etc., partagé. Toujours quand le Midrash, on a l'habitude, quoi. Quand le Midrash amène un machal, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut pas vraiment dire, mais qu'on peut dire sous forme de machal, et on va comprendre quelque chose qui n'était pas vraiment exprimable ou indicible ou un truc comme ça. Là, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a bien entendu son argument parce que il lui a donné une deuxième réponse. Chazar ve'amar la. Kaoud ve'amar Shmuel bar Nachman. Finalement, il s'est repris et il lui a dit ce que Rav Shmuel bar Nachman avait dit, à savoir, le fichier l'onigmera melechet amaim, le fichach, ktiv vashlishi, pa amaim, shne permim, kitov. Achat le melechet amaim, achat le melechet ayom. Bon, finalement, il lui a donné la réponse qui avait été donnée avant. Pourquoi il lui a pas donné le chatrila, cette réponse? Et finalement, il la donne quand même. Ablevi b'shem Rav Tanchum bar Chanilai. Amar, lui, dit, c'est écrit dans le pasuk, Magid, Mereshit Achrit. Mutrilat Briato Shel Olam. Depuis la création du monde, Safa, Kadosh Baruch Hu, Moshe, Karoui Tov, Ve Atid, Litol et שלו, מתחת ידיהם. לפיכך, לא כתיב בהם כי טוב. מגיד מראשית אחרית, depuis le début, on raconte, on dit quelque chose qui concerne la fin. Dès le début de la création, HaKadosh Baruch Hu a vu Moshe, Karoy Tov, qui est appelé Tov. Quand Moshe Rabbeinu est né, enfin, au moment où il n'était pas encore Rabbeinu, mais quand il est né, on l'a appelé Tov. Ve'atid, et Hachem a vu que dans le futur, il allait prendre Et Shelo, il allait prendre sa part, si vous voulez, ce qui est à lui. Mitachat yedehem. C'est-à-dire que il va le prendre. Pour l'instant, on va pas traduire. Enfin, on va simplement dire, il va prendre Shelo. Ça veut dire quoi? Ce qui va, il va être puni en fait. Il va recevoir sa part. Sous-entendu. Sa sanction. Tachad yedehem, c'est-à-dire avec ses os-là. C'est-à-dire même Riva. Mon cher Rabbeinu va être sanctionné à cause de l'épisode où il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Le Fichar, pour cette raison, l'octive Ba'en Kitov. Ces eaux-là, par lesquelles, à cause desquelles, Moshe Rabbeinu va être frappé, sanctionné, parce que beaucoup en a tenu compte au moment de la création du monde et n'a pas dit Kitov sur cette eau, sur ces eaux. Rav Simon b'shem Rabbi Yoshua ben Levi, un machal le melech. Alors, de nouveau un machal. Un roi. Shayalo Ligion. C'est un roi qui avait, en fait, une légion. Et cette légion, elle était cachée. C'était des gens très durs. Amar Amelech Oil Veligion Ze Kashe Ali Katev Shmi Alav. Non, je veux pas qu'on mentionne mon nom sur cette légion. Donc, sur l'étendard de la légion, ça sera pas marqué légion de du roi, machin, parce que c'est une légion de gens trop durs. כך אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל והמים הללו לקו בהם דור המבול, דור אנוש, דור הפלגה, לפיכך אל יכתב בהם כי טוב. רבי יהושע בן לוי הדי אוסי כהקדוש ברוך הוא נפה וולו אקריר כי טוב שור סזו, פסקו סזו elles vont servir à sanctionner. Et vous remarquerez que ce Rav Simon, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il a donné ce machal de ce que ces eaux sont des eaux qui vont sanctionner. Hachem n'a pas voulu mettre son nom sur ces eaux-là. Donc ici, premièrement, on voit le nom d'Hachem, on y reviendra. Un des noms d'Hachem, c'est Tov. Parce que le problème, ce qu'il n'a pas voulu écrire, c'est Kitov. C'est pas que c'était pas marqué que c'est pas le nom d'Hachem, sinon. Et surtout, ce que vous remarquez, c'est qu'on ne parle ici pas du tout de Moshe, mais on ne parle que de ce qui était avant Matan Torah. D'accord? Des sanctions de ces eaux-là, que ce soit les eaux d'Or HaMabul, d'Or Enosh, d'Or HaPlaga, chaque fois des générations qui sont avant, on peut même dire avant la sortie, avant l'Égypte, avant la création du clan Israël, en fait. Donc, c'est intéressant de voir que d'abord il y a eu les autres rabbanim qui eux, Rabbi Tanchum essentiellement, donc Rabbi Levi rapporte le nom de ce Rabbi Tanchum, Magid Mereshit Achrit, lui il construit en disant que dès le début on a tenu compte de ce qui allait avoir lieu dans Acharit. Alors, pourquoi est-ce que c'est Acharit? Donc Acharit, c'est pas vraiment le dernier. C'est ce qui est beaucoup plus tard. C'est pas la fin de l'histoire. Et quant à Rabbi Simon, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, lui donne un machal pour dire la même chose, finalement. Lui passe par un machal. Pourquoi est-ce qu'il faut comparer ces eaux à une légion cruelle, mauvaise, méchante? Et pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il ne prend que l'eau qui punit l'humanité, en fait, ou la quasi-humanité, la quasi-totalité de l'humanité, mais d'une humanité sans la Torah, quoi. Alors que punir Moshe, c'est punir le clan d'Israël et punir l'humanité avec la Torah, quoi. L'humanité après la Kabbalat HaTorah. Voilà, c'est un long texte. On ne va peut-être pas commenter complètement. Il y a l'air d'y avoir plusieurs parties. Il y a une première partie qui est la fameuse question qui touche à cet enseignement de Benzoma. Benzoma, on l'avait déjà vu, on l'a vu dans la Gemara aussi. Moi, il y avait un problème avec Benzoma. Il était en train de méditer justement sur ces eaux d'en haut, ces eaux d'en bas et le rakia, et sur l'espace qu'il y avait, on en a parlé, entre les eaux d'en haut et le rakia. Le rakia ne reposant pas sur, vous vous souvenez, les eaux d'en haut ne reposent pas sur le rakia. Donc on avait une question, la question c'est alors, ça tient sur quoi? Il avait dit, mais ça tient sur le mamar, sur la parole d'Hachem. Et Rabbi Meir lui avait expliqué à le Kouti qui posait toutes ces questions. C'est très possible, tu vois très bien que dans ton monde aussi, on peut très bien, en quelque sorte, avoir un impact sans contact. D'accord? C'est, si vous voulez, c'est Newton après Ptolémée, quoi. Une action sans contact. Action à distance. Tu bouches la clepsydre avec ton doigt, pas en contact avec l'eau, et l'eau cesse de couler. Une action à distance. C'est Newton après la vision la méthode Ptolémée, pour expliquer avant Galilée, Copernic, etc. Bon, c'était pas un autre sujet. On avait vu déjà cela. Et maintenant, c'est une autre question. Il y a un problème. Mais le problème, il a l'air d'être un problème fondamental, puisque on dit que Benzoma irish et à Olam. C'est pas une question de Kouti. C'est pas la question d'un Kouti qui pose la question à Rabbi Meir, qui est effectivement une très grande question. Mais où l'eau irish et à Olam avec ça. Mais Benzoma, où irish et à Olam avec cette question-là. Comment se fait-il qu'on dise ici que le ciel a été fabriqué? Alors que, par ailleurs, on sait très bien qu'il est la résultante d'une parole. Une parole divine. C'est un Ma'amar Hashem. Pourquoi tout à coup c'est marqué Vas? Ce Inyan de Asiya, je vous ai dit, la notion de Asiya, on traduit Asiya par faire, mais en français on traduit toutes sortes de choses par le verbe faire. La notion de Asiya, elle veut dire aller jusqu'au bout de la chose. Alors on a déjà expliqué, je vais juste le rappeler pour mémoire, que quand on fait une mitzvah, si vous voulez, l'action de la mitzvah, si on veut vraiment la voir comme une mitzvah, c'est-à-dire comme étant la réponse à une parole d'Hachem, à un tzivoui d'Hachem, vous vous souvenez, on avait expliqué que la graphie du mot mitzvah, elle permet de le lire mitzvah, mais on peut aussi lire metzavé et metzouvé aussi. Et puisqu'on peut le lire, ça veut dire qu'il faut lire tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'en vérité, une mitzvah, c'est quelque chose qui a été dit par le metzavé et reçu par le metzouvé, qui, à la suite de cette parole reçue, de cette mitzvah reçue, va agir pour Hachem, en fait, si on peut parler. Parce qu'Hachem le lui a demandé. C'est ça la vraie mitzvah. Donc la mitzvah, elle est la prolongation de la parole divine. Une véritable mitzvah, c'est une mitzvah dans laquelle, en théorie, quand je fais une mitzvah, il faudrait que j'aie présent à l'esprit le pasouk à partir duquel on va déduire la mitzvah et d'une certaine manière, toutes les mishnayot et toutes les gmarot, etc., qui nous mène à, et tous les poskim, etc., qui nous mène à la façon dont je fais la mitzvah aujourd'hui. En tout cas, donc, essayer de faire la mitzvah comme, c'est faire la asiya de la mitzvah. C'est aller jusqu'au bout. C'est pas autre chose. C'est aller jusqu'au bout de la parole divine. Et jusqu'au bout, c'est une obligation. La parole divine, elle est faite. C'est ça le Ratzon Hashem, pour qu'on aille jusqu'au bout de la parole divine. Alors notre jusqu'au bout, il est relatif. C'est-à-dire que quand on a, nous, aujourd'hui, des paroles divines qui nous prescrivent, disons, de faire des korbanot, eh bien, je vais jusqu'au bout. C'est quoi le bout? Ben, le bout, c'est élaborer la halakha. Et je pourrais pas passer à l'acte, parce que, pour des raisons techniques, on n'a pas de Beit HaMikdash. On n'a pas de misbéach ou bref, quelque chose comme ça. Donc, on peut pas aller plus loin. Mais je dois aller jusqu'au bout, malgré tout. Je veux pas dire, ça me concerne pas, j'étudie pas ce sujet-là. Non. Je dois étudier ce sujet-là, et je dois le développer, et aller jusqu'au bout de ce que je peux faire avec ce que, Hachem m'a donné, en vérité. Et si vous laissez là, tout le principe, semble-t-il, aussi du Naaseh V'Nishma. Le Naaseh V'Nishma, c'est Naase, on va faire tout, on va aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? Au bout de ce que tu m'as dit. Toi, Hachem, tu m'as parlé, tu m'as ordonné, je vais jusqu'au bout. Et je sais que quand je serai allé, quand je serai allé jusqu'au bout, tu me redonneras un nouvel ordre. C'est Venishmaod. À ce moment-là, tu me redonneras. Quand je serai allé jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec ce que tu m'as donné. C'est ça le Yosod. C'est ça la Asiya. Et par conséquent, ce qui trouble ici, c'est que dire que les eaux d'en haut ont été faites, on traduit ici, encore que Adonai Shebaruch Hu, il a fabriqué, il a fait. Le rakia. Il a fait le rakia. Le rakia, c'est donc ce qui va, comme on a vu, c'est ce qui va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça veut dire que cette séparation, si je dis qu'elle a été faite, ça veut dire que c'est définitif. C'est-à-dire que tout a été fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire là-dedans. On est dans un monde ou dans une situation où plus rien n'est à faire puisque Hachem a tout fait. Dans le reste, c'est la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, elle appelle une assia. C'est pour ça qu'à la fin, à la fin du Maaseh Bereshit, du texte de Maaseh Bereshit, c'est marqué la asot. Il faut maintenant aller jusqu'au bout de ce qui a été dit. Hachem nous a donné les éléments, il a créé un monde pour que je puisse le servir. Et servir Hachem, c'est aller jusqu'au bout de pourquoi est-ce que le monde a été créé. Il y a création du monde, la création du monde, elle a été arrêtée à un certain moment. C'est comme si Hachem avait dit, ok, maintenant, moi je m'arrête, à vous de jouer. À vous de faire. Et donc, Ben Zoma, il dit, mais comment c'est possible qu'il y ait, dans la création du monde, quelque chose qui est de l'ordre du fermé, du terminé. Si vous voulez, c'est dans l'équivalent dans les humains, c'est ça. Il est fait, complètement fait. Il est allé jusqu'au bout. Il n'y a plus rien à faire, en quelque sorte, si on est déjà au bout. Et c'est ça, je crois que c'est un des versets qui font trembler le monde, en fait. Parce que comme le monde n'a d'existence que parce qu'il s'agit d'aller jusqu'au bout, si le bout est déjà atteint au moment de la création, terminé, il n'y a plus de monde. Quand on dit qu'il a fait trembler le monde, oui, il n'y a plus de monde. Il n'y a pas de raison d'avoir un monde. Si Hachem voulait des robots, il n'a pas besoin de fabriquer un monde pour ça. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de monde. Dès lors que le monde est fait. Donc, il y ait au moment de la création quelque chose qui est de l'ordre de la Asiya, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'il n'y a plus de place pour le monde. C'est clair? Vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez fermé vos micros, mais d'accord? C'est ça le scandale de Ben Zoma. Et David Ameller, il dit autrement. Je sais pas si ce Tehilim là, c'est David Ameller, mais en tout cas, un des rédacteurs des Tehilim, David Ameller, celui-là, je me souviens pas. Il dvar Hashem shamayim naasu v'ruach piv kol tzva'am. C'est marqué clairement que c'est dvar Hashem. Alors, c'est vrai que c'est marqué Naasu. Mais c'est marqué Bidvar Hashem. Alors, peut-être que, effectivement, Si on prend le texte dans son détail, le texte de Tehilim, c'est marqué Bidvar Hashem, mais Shamaim Nasu. Shamaim, c'est-à-dire la partie haute, c'est Nasu. C'est vrai, dans cette partie-là, il n'y a pas de créature qui est un travail à faire. Dans cette partie haute, si on a la partie haute, c'est la partie complètement transcendante où il y a là-bas que des malachim ou des choses comme ça, des trucs spirituels. Ben, là-bas, il y a absolument aucun travail à faire. Tout est fait. C'est juste, tout est fait là-bas. Mais quelque part, c'est quand même étonnant que si Hachem a fait le rakia, c'est pas seulement la partie haute. Le rakia, c'est la séparation entre le haut et le bas. Donc, il y a quelque chose dans le rakia qui appartient aussi au monde d'en bas. Puisque il appartient pas plus au monde d'en haut qu'au monde d'en bas, le rakia. Il les sépare. Et par conséquent, il y a quelque chose de non, d'extrêmement gênant parce qu'il y a de la assiya dans le monde d'en bas. La assiya dans le monde d'en haut, elle dérange personne. Mais la assiya dans le monde d'en bas, elle dérange énormément. Mais le Midrash ici, il prend pas position. Mais par contre, il passe à autre chose. On va voir si on peut rattacher la deuxième partie à cette première partie. Parce que sinon, c'est deux sujets différents. Le Midrash, maintenant, il passe à autre chose. En vous disant que c'est autre chose. On va le traiter d'abord comme autre chose, puis on verra après. Puis la prochaine fois, on verra peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Donc, la question, c'est une question qui est... Dès qu'on ouvre le Chumash, on apprend par Parshat Bereshit. On est tout de suite frappé par le fait qu'il n'y a pas de Kitov dans le jour numéro 2, il n'y a pas de Kitov. Et par contre, dans le jour numéro 3, il y a deux fois Kitov. Alors, pourquoi effectivement il n'y a pas de Kitov dans le deuxième jour? Alors, premièrement, Rabbi Yochanan dit, c'est au nom de Rabbi Yossi Bar Chalavta, c'est parce qu'il y a la création du Gehinom. Et où est-ce qu'on sait que c'est ce jour-là que le Gehinom a été créé? Où est-ce qu'on sait que c'est le deuxième jour? C'est pas marqué dans la Torah que le deuxième jour Hachem a créé le Gehinom. Alors de quoi on parle ici? Qui aroch me'et mol, il est en quelque sorte le passouk qui est cité ici, qui est un passouk du Navi, qui dit qu'en réalité, il est ce tafté ou tofté, qui veut dire gehinom, c'est aroch, il est préparé. Il est déjà là, en quelque sorte. Mais etmol. Depuis hier. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jour on parle ici d'un jour qui a un etmol. Un jour qui a un hier. Donc ça peut être que le deuxième jour, le premier jour, il n'a pas d'hier. Donc c'est le premier jour à avoir un etmol, donc un jour qui peut être considéré comme ayant un etmol, le premier qui nous vient à l'esprit, enfin qui vient réellement, c'est le fameux deuxième jour. Et on dit, voilà, c'est un jour où il y avait un hier. À la limite, il y aura d'autres jours qui auront un hier. Tous les jours d'après, ils auront un hier. Mais lui, il est le seul à avoir un hier, mais pas d'avant-hier. Bon, ça. Ça, la drasha, elle n'est pas très difficile, mais c'est comme ça. Le deuxième jour est le seul jour dans l'histoire du monde à avoir un hier sans avant-hier. C'est clair, ça, oui. Et donc, on dit que depuis ce jour-là, qui a un hier sans avoir d'avant-hier, le Tofté, bon, qui, c'est le Guéinom. Bon, c'est un autre nom, je ne sais pas pourquoi c'est ce nom-là qui a été utilisé. Il est là, depuis ce deuxième jour. Donc voilà. On a un passouk du Navi, pas de la Torah, mais du Navi qui nous dit que le Guéinom, il a été créé le deuxième jour. Ok. Alors ça, c'est la réponse de Rabbi Yochanan au nom de ce Rabbi Yossi Bar Chalavta. Voilà, c'est... On ne peut pas dire Kitov dans un jour où le Guéinom a été créé. Bon, en vérité, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce que le Guéinom, c'est pas quelque chose de négatif. C'est d'après ce que j'en sais, on passe ceux qui vont au Guéinom, a priori, la plupart d'entre eux vont au Guéinom, ils y passent un certain temps, ils en sortent, et là, ils ont payé leurs dettes, en quelque sorte. Et donc, ils sont nekiyim. Et maintenant, ils vont pouvoir rentrer dans le Gan Eden ou dans, pas où, en positif. Donc, c'est pourquoi voir ce Guéinom comme quelque chose de tellement négatif qu'on peut pas dire que c'est tov. Ça voudrait dire la chose suivante. Si on veut dire qu'on peut pas dire tov sur quelque chose qui n'est finalement pas mal, pas mauvais, bon, ça veut dire que le tov, c'est pas simplement que c'est pas mauvais. Le tov, c'est quelque chose qui est positif. On peut presque dire dans l'absolu, en fait. Bien que pour nous, c'est pas très, c'est une expérience qu'on n'a pas aujourd'hui. Enfin, peut-être. D'accord? On sait pas ce qui est le tov. Si ce n'est par comparaison avec autre chose. Tov, c'est toujours la résultante d'une comparaison. On compare, ça c'est tov, c'est bon parce qu'il y a du moins bon. Si j'avais aucun rat, si j'avais aucun mal, je pourrais pas définir le tov. Pas plus que si je n'avais pas d'obscurité, je pourrais pas définir la lumière. Ça va toujours par couple, ces histoires-là. Par conséquent, a priori, le tov, il va avec un rat. Bien qu'on sache par ailleurs, on va le revoir, que le rat, en réalité, il n'existe pas vraiment au même niveau que le tov. Vous vous souvenez, on a déjà vu plusieurs fois qu'à une certaine hauteur, le rat n'existe pas. Ou si vous voulez, il existe seulement sous forme d'absence de tov. C'est comme ça que le Gaon explique. Vous vous souvenez, moi, je ne veux pas vous répéter encore une fois. Donc ici, c'est déjà suffisant en tout cas pour qu'on ne puisse pas dire Kitov. Donc ça veut dire qu'Hachem crée des choses sur lesquelles il n'est pas prêt à dire qu'elles sont Tov. Parce que tout ça, c'est ce qu'Hachem dit. Alors évidemment, c'est pour nous. Hachem pour lui-même, il n'a pas besoin de... Il dit rien du tout, mais c'est pour nous tout ce qui est dit. Parce que quand on dit Hachem a dit ça, c'est pour que nous sachions que cette chose-là, elle est tov. Bon, on n'est pas en train de raconter la vie d'Hachem. C'est pas la bio d'Hachem qui est écrite dans ce texte, bien sûr. Ça, c'est une première lecture. On verra après s'il y a lieu de la modifier. Avchanina Amar, Shebo Nivret Machloket. Chez Neymar, il y a la notion de machloket. Dans machloket, la racine, le corps de Machloket, c'est le Chet Lamed Kouf. La notion de Chelek, de bar. C'est comment faire, c'est un parti, ou une partie du tout, où les gens se séparent en deux parties. La Chalouka, le partage. Et donc, ce qui a été créé le deuxième jour, c'est la notion de séparation. C'est un peu paradoxal parce que la notion de séparation, si vous voulez, la séparation, c'est le niveau 0 au niveau 1 peut-être de la Kdusha. Doshim Tiyu, c'est pour Shim Tiyu. Donc la notion de séparation, elle est hautement positive, puisque c'est le début de la Kdusha. Seulement, il faut comprendre. Rav Tuvioumé, il va nous expliquer. Et il va expliquer, c'est bien vrai que ce partage des eaux, entre haut, d'en haut, d'en bas, que le Rakia, créé le deuxième jour, a fait. Ça, c'est comme il dit, c'est le tikuno ou le yeshuvo. C'est entièrement positif. Entièrement positif. C'est très important, cette notion-là, justement, on peut le dire en termes de Kdusha, si vous voulez. Cette notion de tikkun, chacune de ces eaux, d'en haut, d'en bas, ont des fonctions particulières. Et cette notion du deux, si vous voulez, c'est l'introduction de la notion du deux. On peut dire que le deux, il existe peut-être quand Hachem a créé le ciel et la terre, il a créé deux choses. Donc il y a déjà d'une certaine manière le deux, mais le deux n'est pas dit clairement. Le deux, il est dit ici, le Rakia, qui sépare un en deux. C'est la fameuse question de la Chazal pose, comment le deux peut-il dériver du un? D'un un parfait, il ne peut pas y avoir un deux, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans notre monde, ça n'existe pas. Le paradoxe, si vous voulez, de l'unité d'Hachem, c'est qu'Hachem peut produire du deux. Il va produire du deux, il va produire du deux sous la forme Zahar Nekeva, il va produire du deux sous différentes formes. Il produit du deux alors qu'a priori, le un parfait on peut même pas penser dans un un parfait qui puisse donner du deux. Ce serait presque une faiblesse du un que de donner du deux. Or ici, il y a fabrication, et c'est ça le tikkun et yishuv, ça veut dire, pour que ça puisse fonctionner, il faut du deux. Nous, on vit dans le monde du deux. On proclame tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'Hachem est Echad, mais on ne l'expérimente jamais. On expérimente toujours le Echad, sous forme de deux en vérité. C'est le deux qu'on veut. Et peut-être qu'on peut lire dans, quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, si vous voulez, peut-être on met le doigt sur le particulier, enfin, sur ce paradoxe en fait, que Hachem peut être à la fois Elokeinu, et ça n'affecte pas le fait qu'il est Echad. Normalement, s'il est Elokeinu, alors il n'est pas vraiment complètement Echad, puisqu'il a, il nous a choisi, quoi. Il s'occupe d'une partie de l'humanité. Déjà, s'occuper de l'humanité, ça, c'est déjà incompréhensible, mais s'occuper d'un petit groupe particulier dans l'humanité, c'est normalement, je crois qu'on peut lire, Hachem Elokeinu, et malgré tout, Hachem Echad. Shema Israël, bien qu'Hachem soit Elokeinu, et nous tenons à ce qu'il soit Elokeinu, il est Elokeinu, et on tient, et on est content, on est heureux, etc., et qu'il est Elokeinu, mais maintenant, il faut comprendre que ça n'affecte pas le fait qu'il soit Echad. C'est une question fondamentale. Alors, cette séparation, elle est le tikkun et le yishuv. Mais, justement, il dit, ce Rav Toumiomé, il nous explique, bien que cette machloket, à savoir la fabrication de ce rakia qui sépare, c'est le tikkun chez l'olam, yishuv chez l'olam, on ne peut quand même pas dire qu'il est tov. Quoi? Parce qu'il porte en soi l'autre version de la machloket. Le même mot, machloket. C'est la machloket chez Ilir Bouvo. Une machloket, comme on discute dans Piklavot, chez l'Oshem Shamaim, Shem Shamaim, etc. Mais en tout cas, la machloket, elle est arbevet. Le arbev, c'est mélanger, au contraire. C'est un paradoxe. Ça veut dire que, il y a une notion de machloket qui mélange. Comment est-ce qu'on peut dire que la machloket mélange? L'arbev, c'est-à-dire ça mélange, ça, on n'y voit pas clair. Il existe une forme de partage. Clarifie pas les choses, justement. Et c'est probablement ce qui est de l'ordre d'une machloket stérile, en fait. Machloket de Korach, Vadato, etc. Justement, cette machloket qui est l'exemple même d'une mauvaise machloket. De Korach, Vadato. Vous avez bien remarqué, évidemment, que dans ce texte-là, on ne donne pas deux parties. La machloket de Shammai Bet Hillel, où Hillel et Shammai, il y a deux personnes. Il y a Hillel et Shammai. Il y a Bet Hillel et Bet Shammai. Et la machloket de Korach et Adato. Korach et Adato, ils sont d'un côté. C'est machloket avec qui? Pourquoi on ne cite pas l'opposant de Korach? Ou bien parce qu'on ne veut pas dire que Korach, en vérité, s'oppose à Hachem, et que c'est pas le kavod d'Hachem d'être mentionné dans une machloket, ou bien on peut dire qu'en vérité, la machloket de Korach et Adato, elle est entre lui-même et entre, c'est une machloket avec lui-même, en quelque sorte. Au fond de lui-même, il sait très bien qu'il a pas raison. Et donc, justement, c'est marbev. Ça mélange les choses, en fait. Ça met du flou. Et toutes les questions que va poser sur le talit ou sur la mezouza, etc., Korach, ça met du flou dans les mitzvot. La mitzvah, elle est claire. Tu dois mettre un fil. Le fil, c'est très clair. Il a tout un mythe. Qu'est-ce qu'il veut, lui, justement? Il remplaçait le fil par une étendue, par un tissu. Dans le tissu, tu vois pas la notion qu'il y a dans un fil. Dans le 1 de la mezouza, dans le 1 sefer, qu'est la mezouza, tu vois quelque chose que tu ne vois pas dans l'ensemble des sfarim. De toute manière, donc ça, c'est quasiment une machloket de Korach avec lui-même. Donc il y a un côté complètement négatif de la machloket. Donc cette séparation, elle n'est pas que positive. Et parce qu'elle n'est pas que positive, on ne peut pas dire tov. Si vous cherchez une définition du tov, le tov, c'est quelque chose qui ne peut être que complètement positif. Et même si quelque chose est positif, mais ça passe par un moment difficile comme celui du Gehinnom, c'est pas non plus tov. Rav Shmuel, il dit, le fils shelo nigmera melechet amayim, lefichach, katuv ba shlishi ki tov shnei pe'amim. Echad lemelechet amayim, echad lemelechet melechto shel yom. Rav Shmuel, il dit, euh, chez nous, c'est pas marqué ici, mais en fait, on va voir plus bas qui s'appelle Rav Shmuel Bar Nachman. Bon, je ne sais pas pourquoi le Midrash, le rédacteur, il n'a pas marqué ici son nom complet. Mais il va le dire plus bas, donc. Rav Shmuel Bar Nachman, Rav Shmuel ici, il dit que on peut pas faire, peut pas dire Kitov sur quelque chose qui n'est pas terminé. On fait pas non plus, de la même manière, on fait pas une bracha sur une mitzvah qui n'est pas terminée. Quelque chose qui est en train de se faire et qui se fait en continu, on fait pas de bracha dessus. Il faut que ça soit terminé pour qu'on puisse faire une bracha. Et on peut pas dire tov sur quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas terminé. Donc là aussi on voit. Même quelque chose qui est tov, mais qui a encore besoin d'être complété, on dira pas tov non plus. Donc vous voyez, on a en passant une notion, une espèce de définition du tov. Je ne pense pas que ce soit le sujet directement, mais en passant on a appris ça. Une forme de définition du tov. Bon, jusque là on a entendu les trois explications, le Geinom, la Machloket et l'incomplétude du travail sur l'eau. C'est-à-dire un mal qui va devenir bien, quelque chose qui apparaît négatif mais qui en fait est pour le bien. Il y a quelque chose qui est bien mais qui a un aspect mauvais, et l'incomplet. Trois formes du non-tov. Je ne sais pas expliquer pourquoi c'est dans cet ordre-là. Parce que je n'arrive pas à voir un crescendo ou un décrescendo entre ces trois cas-là. J'ai l'impression que ça monte et ça descend. Mais bon, peut-être vous arriverez à voir ou on verra plus loin. Je ne sais pas, je ne le vois pas. C'est bon, c'est pas fondamental. Il y a les trois cas. Et maintenant, on nous dit que cette question-là, ce tov-là, cette absence de tov, une grande question qui a été posée, pourquoi il n'y a pas de tov? C'est une question qui est traitée, comme on l'a vu ici, par les Rahamim, qui étudient les psukim, etc. Et puis, il y a une bonne femme qui arrive, une romaine, et qui vient... C'est des matrones qui arrivent et qui posent la question. Elle aussi pose la question. Elle a ouvert la Vulgate, ou je ne sais pas ce qu'elle a ouvert, et elle a vu que c'est pas marqué Kitov. Alors elle lui a demandé, elle est allée chez Rabbi aussi, et elle lui a demandé pourquoi c'est pas marqué Kitov. Ça veut dire que le Midrash veut dire que cette question n'est pas une question c'est pas une question de spécialiste, c'est quelque chose qui est frappant. Visiblement, ça a été fait pour être vu. C'est-à-dire, c'est comme si la Torah, enfin, nous nous a donné la Torah, il nous a donné une Torah avec quelques questions qui vous sautent à la figure. Même si t'es pas un grand spécialiste, même si t'es pas très medakdek, etc. Mais ça saute à la figure. Alors on peut le traiter comme on l'a traité ici par une analyse de qu'est-ce que c'est que Tov. Expliquer pourquoi on ne peut pas appliquer Tov à ce qui est créé le deuxième jour. Elle pose la question. Et on a l'impression que Rabbi Yossi, il a entendu la question. Il pourrait lui donner une réponse qui pourrait mieux la satisfaire. Et pour une raison une autre, on va essayer de comprendre, qui ne lui donne pas la bonne raison. Mais il donne quand même quelque chose qui peut s'entendre. Mais effectivement, pourquoi c'est... Alors, elle va lui donner un machal pour que ce soit bien clair que, bon, elle n'est pas d'accord avec son explication. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez quelle est la différence entre le machal et la réalité. Et même la situation qui est décrite, je veux dire. D'accord? Même entre ce qu'il lui a répondu. Il lui a répondu, à la fin, c'est marqué Tov Meod. Le Tov Meod, il est distributif, si vous voulez, sur tout ce qui a été dit avant. Et ce qui a été dit avant, c'est que, bon, c'est qu'on a dit Kitov surtout pour tous les jours, mais pas pour le deuxième jour. Mais comme à la fin il y a un Tov Meod, bon alors lui il dit, bah finalement on a dit Tov, on a même dit Tov Meod, ça porte aussi sur le deuxième jour. Ok, donc on peut poser la question de plusieurs manières, on peut par exemple poser la question, pourquoi était-il nécessaire, ou qu'est-ce que dit le plus le Tov Meod distributif, de plus que le Kitov qui a été dit sur chacun des jours. Alors on pourrait dire, ben évidemment, Tov Meod, ça n'a rien à voir avec Kitov. Tov Meod et Tov, c'est pas la même chose. Quand si votre enfant il vous ramène un Tov comme note de l'école, ou bien un Tov Meod, il n'aura pas les mêmes félicitations de votre part. Tov, c'est bien. Mais très bien, ça c'est autre chose. D'autant que dans la Torah, Meod, dit le Gaon, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En plus, c'est bien connu que Meod, c'est les lettres de Adam, etc. Donc ça, il y a toute une richesse de sens, si vous voulez, qui sont attachés à ce mot Meod. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est ok, pourquoi est-ce qu'il a dit Tov Meod à la fin, puisqu'il avait déjà dit Tov. Et si tu dis que ça dit quelque chose de plus, ok, alors il a dit quelque chose de plus. Mais c'est pas la même chose de recevoir quelque chose de plus qui vient s'ajouter à quelque chose moins grand qui était déjà là, ou bien de n'avoir que le Tov Meod. Elle, elle n'a pas accepté, et je voudrais que vous me disiez si vous voyez une différence entre l'exemple qu'elle a donné. Vous avez bien compris l'exemple, elle a dit, tu imagines que tu as donné à chacun, sauf à une des personnes, tu as donné 100, et puis ensuite tu as redonné 100 à partager entre tous, donc entre les 6, chacun a reçu un sixième de 100. Elle dit, le bilan est pas le même. Si on fait ils font un bilan, chacun d'entre eux va pouvoir dire, j'ai reçu 100 plus un sixième. Sauf le deuxième, qui lui, il n'a reçu que un sixième. C'est imparable, non? Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas rendu compte dans le machal, on rend pas compte du meod. Or, ce machal, on aurait pu le dire, même si Hachem avait répété à la fin de la création de Maaseh Bereshit, s'il avait simplement dit Vehine Tov. D'accord, c'est super, c'est bien, Tov. Est-ce qu'on doit rendre significatif l'absence de Meod dans le Tov de tous les jours? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Tov Meod chaque jour, hein, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il dit seulement Tov?
On a dit que c'était parce qu'il était inachevé.
Oui, pardon, allez-y encore une fois.
Chaque jour était inachevé.
Oui, on pourrait dire qu'effectivement, le Tov ne peut pas s'appliquer, le Tov Meod ne peut pas s'appliquer sur quelque chose qui est inachevé, et il faut considérer les six jours comme formant un tout. Et par conséquent, tant qu'on n'a pas le tout, on est dans l'achevé, en quelque sorte. Dans l'inachevé, pardon. On est dans l'inachevé, comme dirait Jean Kélévitz. Donc, d'accord. Ok, ça c'est une bonne remarque qui vous expliquait pourquoi Hachem n'a pas dit Tov Meod et qu'il ne l'a dit qu'à la fin. Enfin, finalement, ils ont tous un sixième du Tov Meod, du Tov qu'on peut dire sur l'achevé. Effectivement, Tov Meod, c'est seulement quand la totalité. Donc, il y a cette idée que ces jours-là forment un tout. Et on voit quelque chose quand même du lien entre les jours, parce que on voit bien que cette idée d'avoir dit deux fois Kitov au troisième jour, en disant que quelque part c'est comme s'il fallait dire un Kitov sur le travail de l'eau. Mais on n'a pas pu parce que c'était pas achevé. Alors même Tov, on peut pas le dire quand c'est pas achevé. Il y a deux degrés d'inachèvement. Il y a le non-achevé de l'eau, qui n'est pas fini en un jour. Et puis il y a le non-achevé de tous les jours, séparément, tant qu'on n'a pas la totalité des jours. C'est deux degrés d'inachèvement, si on parle comme ça. Il y a un degré d'inachèvement plus radical qui fait qu'on peut même pas dire Tov. Et puis il y a un degré d'inachèvement qui dit qu'on peut dire Tov, mais pas Tov Meod. Tout ça, c'est vrai, dans l'argent, comme dans les jours, en quelque sorte. D'accord? Elle est passée par un machal qui porte sur l'argent. Donc c'est pas, il faut peut-être regarder qu'est-ce que nous donne ce machal avec de l'argent, qu'est-ce qu'il y a dans l'argent qui était peut-être plus compréhensible, mais qui est plus machal parce qu'on pouvait pas le dire sur les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qu'elle a dit sur le 1 plus un sixième, etc. Est-ce que elle pouvait pas le dire sur les jours? Sur l'argent, on peut le faire parce que l'argent, justement, ça s'additionne et ça se soustrait, enfin bref, et ça se divise, etc. Mais additionner des jours au sens ou bien le contenu des jours, peut-être que ça ne peut pas s'additionner. Pourquoi il a besoin de passer par un machal? Qu'est-ce que nous permet le machal que ne nous permettait pas la formulation en jour? La matrone, elle passe par le machal. C'est qu'elle veut dire quelque chose qu'elle peut dire avec le machal et qu'elle ne pourrait pas dire si on en était resté avec les jours.